L'Hôtel des Morts, Henry James. Partie 3 sur 3. Chapitre 8. Il l'avait impitoyablement abandonnée. C'était là naturellement ce qu'il avait d'abord fait. Peu à peu, dans la solitude et le loisir, Stransom, ajustant les fragments qu'il possédait et éclaircissant à la réflexion sans point obscur, reconstitua toute l'histoire. Elle n'avait connu Hag qu'après la rupture des relations entre ce dernier et Stransom, longtemps après, très probablement. Et il était naturel que, de la vie privée d'Hag, elle n'eût connu que ce qu'il avait jugé bon de lui communiquer. Il était parfaitement concevable qu'il y eût des passages de sa vie dont il ne lui eût jamais parlé, même aux plus tendres heures d'expansion. La plupart des phases de la carrière d'un homme si en vue étaient connues du public, mais elle vivait en dehors du monde, et la seule époque qu'elle eût pu connaître nettement eût été celle qui avait suivi l'aurore de son propre drame. À sa place, un homme eût cherché à connaître le passé et pour l'exhumer aurait consulté des journaux de vieille date. Il était remarquable qu'au cours de leur long pèlerinage et côte à côte, au souvenir du passé, aucun incident ne leur eût jamais donné l'éveil. Mais à quoi bon disserter là-dessus? D'ailleurs, l'incident s'était produit du simple fait de cette sécurité qui avait prévalu en dormant la vigilance de leur amitié. D'Hag, elle n'avait pris que ce qu'il lui avait donné. Son ignorance, en ce qui concernait tout ce qui avait eu quelque rapport avec lui, était un trait vraiment surprenant. Stransom reconnaissait l'influence puissante du mort dans la formation morale de cette femme. En fait, c'était cette œuvre, ce tableau qui frappait la vue de notre ami. Découvrir que la femme avec laquelle il s'était senti en communion si intime, si élevée, durant de longues années, avait été plus ou moins façonnée par Acton Hag. Cela suffoquait Stransom, le laissant tout étourdi. Telle qu'il l'avait vue assise aujourd'hui, elle était marquée de l'ineffaçable empreinte du mort. Bienveillante, sans faute, sans amertume, ainsi qu'elle lui semblait, Stransom ne pouvait s'éloigner de lui-même l'impression d'avoir été, en quelque sorte, victime d'une fraude. Elle l'avait abusé, profondément abusé, bien qu'elle ne s'en fût pas plus doutée que lui. Tout ce passé plus récent s'évoqua à ses yeux et lui apparut comme un temps gaspillé de façon absurde et grotesque. Telles furent ses premières réflexions. Au bout d'un moment, il se sentit plus flottant, plus hésitant et enfin seulement plus troublé. Stransom imagina, se souvint, reconstitua, dessina à son idée cette vérité qu'elle s'était refusée à lui livrer. L'effet de cet effort fut de la lui montrer plus imprégnée encore de sa foi en son ami défunt. Malgré l'étrangeté de la situation, sa nature à elle sembla à Stransom plus élevée que la sienne propre. D'autant plus élevée qu'elle avait dû être, qu'elle avait sûrement été plus blessée et avait plus souffert. Une femme, si elle avait à supporter quelques injustices, subissait toujours une injustice plus cruelle qu'un homme. La croix, la plus légère qui pourrait lui échoir, serait plus lourde à ses frêles épaules que la croix la plus lourde aux épaules d'un homme. Il était certain que cette créature d'élite ne se serait point contentée d'une moindre épreuve. Stransom était frappé d'horreur à l'idée d'un semblable abandon, d'un tel désarroi. Il fallait en effet qu'elle eût été moulée par des mains puissantes pour avoir été capable de convertir sa souffrance en cette sublime exaltation. Cet individu n'avait eu qu'à mourir pour que tout ce qu'il y avait de laid en lui eût été effacé. Il était vain d'essayer de deviner ce qui s'était passé au juste, mais il était clair qu'elle avait fini par s'accuser elle-même. Elle l'absolvait en tout. et adorer jusqu'à ses propres plaies qui lui venaient de cet homme. Comme une marée puissante, sa passion pour le mort, cette passion que Hag avait exploitée après l'heure du reflux, était remontée et demeurait désormais à jamais étale, la profondeur de sa tendresse à jamais insondable. Stransom pensait, en toute sincérité, avoir pardonné à Hag. Mais comme il était loin d'avoir accompli le miracle qu'elle avait su accomplir. Son pardon à lui consistait en silence. Son pardon à elle était fait de mots qu'elle ne prononçait pas tout haut. La lumière qu'elle avait réclamée sur son autel eut brisé de son éclair le silence de Stransom, tandis que toutes les lumières dans l'église l'éblouissaient, elle, et mettaient une sourdine aux paroles de son cœur. Elle avait eu raison en ce qui concerne la différence. Elle avait dit vrai à propos du changement. Stransom reconnut bientôt qu'il était jaloux, d'une jalousie aiguë. La marée de son amitié pour Hag avait baissé mais n'avait jamais remonté. S'il avait pardonné aux morts, ce pardon était une pauvre chose, un rouage dont le ressort était cassé. Le fait même qu'elle désirait un signe matériel qui rendrait son amant défunt l'égal des autres de la chapelle faisait paraître aux yeux de Stransom cette concession trop grandiose, trop solennelle. Il ne s'était jamais considéré comme un homme dur, obstiné, mais cette épreuve exorbitante que l'on exigeait de lui, lui aisément rendue telle. Il tournait et retournait cette condition en son esprit et la considérait de points de vue qui semblaient chaque fois plus distants. Plus il l'envisageait, moins elle lui semblait acceptable. En même temps, il ne se faisait point d'illusions sur l'effet d'un refus de sa part. Il voyait parfaitement comment cela équivaudrait à une rupture. Il la laissa dans sa solitude durant une semaine. Mais quand enfin il retourna la voir, sa conviction se trouva cruellement confirmée. Pendant ces quelques jours d'intervalle, il s'était tenu loin de l'église et elle n'eut point besoin de lui assurer qu'elle non plus n'y était pas entrée. Le changement était suffisamment radical. Il avait brisé sa vie à elle. Bien plus, il avait brisé sa vie à lui aussi. Tous les feux de son autel lui semblaient soudain s'être éteints. Une grande indifférence s'empara de lui, et le poids même de cette indifférence constituait pour Stransom une peine nouvelle. Il ne sut ce qu'était pour lui sa dévotion que du jour où elle eut cessé, le jour où, gardien de son culte, il cessa de veiller. Jamais il n'avait su avec quelle confiance sereine il avait compté sur le service suprême auquel il devait renoncer. En raison de cet abandon, le futur entier s'écroulait. De là venait la mortelle déception de Stransom. Les jours passés loin d'elle lui donnèrent la preuve de la fermeté de sa résolution. Il ne pouvait imaginer qu'elle fût vindicative ou même rancunière. Elle ne l'avait pas abandonnée dans un mouvement de colère. Elle s'était simplement soumise à l'implacable réalité, à l'âpre logique de la vie. Cela lui apparut tandis qu'il lui parlait, assis dans ce salon où subsistait l'atmosphère imprégnée des conversions de sa défunte tante, telles les vibrations attardées d'un clavecin fêlé. Elle essayait de lui faire oublier combien ils étaient loin l'un de l'autre désormais, mais, dominé par le sentiment de ce à quoi il leur fallait renoncer, il était impossible à Stransom de ne pas avoir de regrets et de compassion pour elle. Il lui avait pris tellement plus qu'elle ne lui avait pris à lui. Il discuta encore avec elle. Il lui dit qu'elle pourrait maintenant avoir l'autel pour elle toute seule, mais elle se contenta de secouer tristement la tête, le suppliant de ne point s'épuiser en faveur de l'impossible, en faveur d'un passé éteint. Ne se rendait-il point compte que ces rites qu'il avait institués impliquaient en eux-mêmes l'exclusion d'elle, de son désir, de son aspiration? Elle ne regrettait rien de ce qui était advenu. Tant qu'elle n'avait pas su, tout avait été parfait. Maintenant, elle en savait trop et une fois leurs yeux ouverts, il ne leur restait plus qu'à se soumettre. Sans doute avait-il joui assez longtemps du bonheur de faire route ensemble. Elle était douce, reconnaissante et résignée, mais cet aspect voilait une inébranlable résolution. Stransom comprit que jamais plus il ne franchirait le seuil de cette pièce intime où elle l'avait admis lors de sa première visite. Cette pensée lui fit sentir combien il redevenait étranger et communiqua une certaine gêne consciente à son attitude quand il la revit. Il aurait eu horreur de plonger à nouveau dans l'abîme des souvenirs, mais la perspective contraire lui était aussi pénible. Après l'avoir revue 3 ou 4 fois, il remarqua que ses visites n'avaient d'autre effet que de diminuer cruellement leur intimité. Il l'avait mieux connue, l'avait mieux appréciée, plus librement quand ils ne faisaient que se promener ou s'agenouiller ensemble. Actuellement, ils ne faisaient qu'un simulacre. Avant, ils étaient sincères. Ils tentèrent de reprendre leur promenade, mais ce ne fut qu'une lamentable tentative. Tout cela était né et intimement dépendant de leur visite à l'église. Ils n'avaient jamais fait que flâner ensemble en quittant la chapelle, où étaient entrés s'y reposer tous deux après une promenade. En outre, Stransom déclinait. Il ne pouvait plus marcher comme autrefois. Ce vide rompait l'équilibre de toute son existence. Leur vie n'était plus qu'un lambeau inutile. Notre ami était franc et n'avait aucune fantaisie. Il ne cachait point son regret nuancé de reproches, il ne cachait plus l'effort qu'il faisait pour la convaincre. La réponse qu'elle lui donnait, quelle qu'elle fût, revenait toujours au même. Elle lui conseillait, quand il parlait d'arriver à la persuader, de calculer quel réconfort elle trouvait, elle, dans sa propre conviction. Lui ne trouvait nul apaisement même à se plaindre, puisque toute allusion à ce qui leur était arrivé ne faisait que rendre plus présent encore l'auteur de leur peine. Acton Hague était entre eux. C'était là l'essence même de la chose, et jamais sa présence n'était plus sensible entre eux que lorsqu'ils se trouvaient face à face. Alors, bien qu'il désirât toujours bannir cet intrus, Stransom avait l'étrange impression de se débattre pour pouvoir se libérer et respirer. Libération qui eût cependant impliqué l'acceptation de cette présence. Profondément déconcerté par ce qu'il savait, il était encore plus troublé par ce qu'il ne savait pas. Il avait parfaitement conscience que dire du mal de son ancien ami ou raconter l'histoire de leur dispute eût été un procédé affreusement vulgaire. Et cependant, cela le vexait que la réserve observée par elle à ce sujet ne lui fournît point prétexte à parler et eut l'aspect d'une magnanimité supérieure à la sienne. Il fit son examen de conscience, s'accusa, s'interrogea. L'aimait-il donc pour accorder une telle attention aux aventures qu'elle avait eues jadis? Pas un seul instant il n'avait admis qu'il l'aimait. C'est pourquoi rien ne pouvait plus le surprendre que de se découvrir jaloux. Si ce n'était pas la jalousie qui pouvait provoquer chez un homme cette torturante soif de détails propre à le faire souffrir. Il savait assez qu'il ne les obtiendrait jamais de la seule personne qui, à ce jour, eût pu les lui révéler. Elle laissait les yeux sombres de Stransom la harceler de questions et ne répondait que d'un sourire empreint d'une exquise pitié, ne prononçant pas plus le mot qui révélerait son secret que le mot qui semblerait effacer en Stransom la raison d'être de son amertume. Elle ne disait rien, ne jugeait rien, elle acceptait tout, sauf la possibilité d'un retour aux symboles et aux cultes d'autrefois. Stransom devinait que, pour elle aussi, il avait vécu d'une vie individuelle ces symboles. Il avait évoqué certaines heures, certaines particularités. Chacun représentait un anneau de sa chaîne. Il lui parut clair que la difficulté pour lui provenait de ce fait que la nature même de l'excuse qu'il pouvait invoquer en faveur de son déloyal ami constituait un obstacle en elle-même. Que cette excuse vint d'elle était précisément le vice qui en ruinait la valeur. Il sentait qu'il eût accédé à la voie de la générosité pure et impersonnelle. Il en eût déféré à un avocat qui, parlant au nom d'une justice abstraite et supérieure, eût imaginé de dire « Ah, Souvenez-vous seulement de ce qu'il y avait en lui de meilleur, et ayez pitié de lui, prenez soin de lui. » Mais prendre soin d'Ag, de la façon même qui avait amené Stransom à découvrir une nouvelle infamie de sa part, ce n'était plus avoir pitié de lui, c'était lui rendre hommage, le glorifier. Plus Stransom réfléchissait, plus il se rendait compte que, quelle qu'eût été la nature des relations d'Ag et de son ami, elle n'avait pu être en elle-même qu'une déception, plus ou moins bien combinée. Quelle part cet épisode avait-il joué dans la vie d'Acton Ag, dans cette vie que le monde connaissait? Pourquoi n'en avait-on jamais entendu parler, si cela avait eu le caractère de franchise propre aux choses honorables? Stransom était assez au courant des autres liaisons d'Acton Ag, de ses devoirs et de ses rôles, sans parler de sa nature même, pour être sûr qu'il y avait eu là quelque infamie. D'une façon ou d'une autre, cette créature avait été froidement sacrifiée. C'est pourquoi, après avoir réfléchi, Stransom s'en tint à sa résolution première, décida qu'il ne pouvait accepter Ag, qu'il devait l'abandonner. Chapitre 9. Cependant, ce n'était pas là une solution, surtout après que Stransom eut reparlé à son ami du plan qu'elle aurait à exécuter après sa mort à lui. Au jour d'autrefois, il en avait parlé, et elle avait répondu avec franchise, marquant seulement une répugnance polie et touchante pour Stransom à s'attarder sur le sujet de sa mort. Elle avait alors nettement accepté cette mission et autorisé Stransom à comprendre qu'il pouvait compter sur elle pour être, éventuellement, la gardienne de son tabernacle. Ce fut au nom de ce qui s'était passé entre eux qu'il fit appel à son amie pour qu'elle ne l'abandonnât point en sa vieillesse. À présent, elle écoutait avec une froideur glaciale et marqué de la répulsion à revenir sur ses paroles pour les discuter. Mais sa répulsion semblait nuancée d'une certaine douceur, car elle exprimait le sentiment qu'elle avait de l'abandon où il était. Cependant, ses conditions restaient les mêmes, à peine plus difficiles à entendre pour n'être pas énoncées à voix haute. Pourtant, il était sûr qu'au fond d'elle, elle se sentait cruellement frustrée de la satisfaction que lui eut apporté ce legs sacré confié par Stransom. Cet avenir si plein, si riche, leur manquait à tous les deux, mais il lui manquait plus à elle, parce qu'en somme, il avait dû lui appartenir exclusivement. Le fait même de l'avoir renoncé, de l'avoir accepté cette perte, donnait à Stransom la mesure de la préférence qu'elle avait pour le souvenir d'Acton Ag. Il avait assez le sens de l'humour pour rire d'un rire amer, tout en se disant « Pourquoi diable l'aime-t-elle tellement plus qu'elle ne m'aime ?» Il était, certes, aisé d'en concevoir les raisons, mais cette faculté qu'il avait de s'analyser n'apaisait point l'irritation qui sourdait en lui. Rien, jusqu'ici, ne lui avait autant donné envie de renoncer à tout. Certes, il avait actuellement atteint l'âge du renoncement, mais jusqu'à ce jour, il n'avait jamais perçu si nettement qu'il était temps pour lui d'abandonner la partie. De fait, après une période de 6 mois, il avait renoncé à cette amitié jadis si exquise et si réconfortante. Cette privation lui apparaissait sous 2 aspects. L'aspect qu'elle avait revêtu lors du dernier effort de Stransom pour cultiver cette amitié était le plus pénible à considérer. Elle apparaissait alors comme la privation qui l'infligeait. Sous l'autre aspect, elle n'était que la privation qu'il supportait. Il se les murmurait à lui-même, dans la solitude, ces conditions qu'elle n'énonçait jamais. Une de plus, rien qu'une de plus. Sûrement, il déclinait. Il en avait la sensation, quand, en plein travail, il se surprenait à rêver le regard fixe dans le vide et à répéter cette phrase absurde. En outre, il en avait la preuve, se sentant si faible et si souffrant. son irritation revêtit une forme de mélancolie, et cette mélancolie le convainquit que sa santé l'abandonnait. Puis, son hôtel n'existait plus. Quand il évoquait en songe sa chapelle, il ne voyait plus qu'une vaste caverne sombre. Toutes les lumières s'étaient éteintes. Tous ses morts étaient morts pour la seconde fois. Au début, il se rendait difficilement compte comment son ancien ami avait eu le pouvoir d'éteindre leur flamme, puisque ce n'était ni par elle ni pour elle qu'ils avaient été jadis rappelés à la vie. Il comprit alors que leur survie n'avait existé que dans son âme à lui, Strandsome. Maintenant, il ne pouvait plus respirer dans l'atmosphère qui régnait dans cette âme. Les cierges pourraient continuer à brûler, mais chacun d'eux aurait perdu l'éclat particulier qui lui était propre. L'église était vide désormais. C'était la présence de Strandsome, celle de son ami en deuil, leur présence à tous deux qui l'avait rempli de tout un monde évoqué. Un rouage faussé, et c'était la fin de tout. Le silence de la femme avait fait disparaître l'harmonie du cantique. Après 3 mois écoulés, Strandsome se sentit si solitaire qu'il retourna à son hôtel. Puisque durant des années, ses morts avaient été sa société préférée, peut-être ne se résignerait-il point à ce qu'il les abandonnât sans tenter à leur tour quelque chose pour lui. Il les trouva là, faisceaux et lancés, scintillants et radieux, tels qu'il les avait laissés, tels que, parfois, il les avait comparés aux lueurs d'un phare éclairant du haut d'une falaise l'océan de la vie. Ce lui fut un soulagement de sentir, au bout d'un moment, qu'il était assis là, que ses morts gardaient leur pouvoir sur lui. De plus en plus, il se fatiguait facilement. Il ne sortait plus qu'en voiture. Les battements de son cœur s'affaiblissaient et détruisaient le réconfort que lui apportaient son culte et ses imaginations. Néanmoins, il retourna encore à son hôtel, y retourna maintes fois, et finalement, pendant les 6 mois qui suivirent, il vécut en ce lieu avec un renouveau d'ardeur, une nouvelle fièvre d'exaltation. L'église n'était pas chauffée en hiver, et il était interdit à Strandsome de s'exposer au froid, mais il lui semblait que, de son hôtel ardent, rayonnait une atmosphère qui le réchauffait, l'embrasait presque. Ainsi, il se prenait à réfléchir sur l'état où il avait réduit sa compagne, l'amie exilée. Que pouvait-elle faire des longues heures vides, de ces heures qu'elle aurait dû passer en cette chapelle? Il y avait d'autres églises, d'autres hôtels, d'autres cierges. D'une façon ou d'une autre, sa piété, certes, trouverait moyen de s'exprimer. Il n'avait matériellement pas pu la priver du culte qui lui était personnel. Il raisonnait ainsi, mais sans en tirer de satisfaction. Il savait bien qu'il ne saurait y avoir d'équivalent à cette colline de feu dont elle lui avait dit une fois qu'elle répondait à son aspiration, comblait sa soif et son désir. Comme ce symbole prenait de plus en plus d'importance à ses yeux, à mesure que la pratique de sa dévotion devenait plus régulière, la pensée de son ami se débattant dans la solitude et dans l'obscurité lui causait chaque fois une angoisse plus pénible, plus douloureuse. Jamais ses rites n'avaient eu une existence plus matérielle, une valeur plus réelle qu'en ces dernières semaines. Jamais la nombreuse réunion d'eux, les autres, n'avaient si bien répondu à l'appel de Strandsome et ne l'avaient tant attiré à eux. Ils se perdaient dans le rayonnement de ces flammes, s'abîmaient en leur éclat, et ainsi, de plus en plus, atteignaient le but qu'il avait désiré réaliser. Leur créer un hôtel aussi éblouissant que peut être la vision du ciel d'après l'imagination d'un enfant. Il errait dans ce champ de lumière, parmi les longs cierges élancés, allant de candélabre en candélabre, de flamme en flamme, de nom en nom, de la rayonnante clarté de l'un de ces lumineux emblèmes à un autre, d'une âme évoquée, arrachée aux ténèbres de l'oubli, à une autre âme ressuscitée. Dans le sentiment intime d'avoir préservé, d'avoir sauvé les âmes de ses morts, l'instinct secret de Strandsome trouvait une étrange et profonde jouissance. Il ne s'agissait point là de quelque conception théologique du salut, ni d'une garantie d'une survie en un monde au-delà. Ils étaient sauvés, mieux sauvés que la foi ou les œuvres de foi ne l'eussent pu faire, sauvés, préservés en ce monde si chaudement vivant qu'ils avaient frissonné de le quitter. Ils étaient ressuscités pour le présent et pour l'avenir, par l'assurance et la preuve du souvenir humain. À cette heure, Stransom survivait à tous ses amis. La dernière flamme qui s'était élevée remontait à 3 ans. Il n'y en aurait plus à ajouter. Il faisait et refaisait l'appel. La liste lui semblait longue et close. Où pourrait-il en mettre un autre, à supposer qu'il n'y eût pas d'autre objection? À quelle place dans le rang pourrait-il prétendre? Stransom songeait, avec un manque de sincérité dont il avait pleinement conscience, qu'il eût été bien difficile d'assigner une place à ce nouveau venu. D'ailleurs, plus il passait en revue la courte légion de ses morts, lisant et relisant des histoires sans fin, jouant avec le silence, plus il constatait qu'il n'avait jamais introduit d'étrangers parmi eux. Il avait eu ses heures de compassion, ses indulgences, grandes, immenses même en certains cas. Mais quel était donc au fond l'essence de son culte, si ce n'était le respect ? Il s'étonnait lui-même de se sentir si raidi, si rigide. À la fin de l'hiver, c'était la préoccupation dominante de son esprit, l'éternel refrain, l'excuse pour l'admission d'un autre, se faisait vieux et agaçant. Un jour vint où, par simple lassitude, Stransom eut consenti à admettre cet autre, si la seule symétrie de sa légion eût exigé cette présence. La symétrie était une harmonie, et l'idée d'harmonie le hantait à présent. Il se répétait que l'harmonie résumait toute chose. Il se prit en imagination à démolir tout ce qu'il avait édifié, à le reconstruire suivant d'autres lignes, d'autres plans, combinant des juxtapositions et des contrastes différents. Il changeait de place, tel ou tel cierge, distribuant autrement les espaces, effaçant toute possibilité d'un vide trop frappant. Il y avait entre ces cierges des relations subtiles et complexes, une combinaison qui eût permis de les reconnaître. Et par moments, Stransom croyait entrevoir le vide qui avait tant frappé la femme, aujourd'hui exilée, assise sans doute, telle qu'il l'avait vue, en face du portrait d'Acton Hagg. De cette façon, il parvint enfin à une conception de l'ensemble idéal qui laissait place pour une nouvelle flamme. Juste une de plus, pour compléter le tout. Juste une de plus, une seule. Il régnait dans le cerveau de Stransom une étrange confusion, car il sentait proche le jour où lui aussi serait au nombre d'eux, les autres. Que lui importeraient alors ces autres, puisqu'il ne comptait que pour les vivants? Même en tant que l'un de ses morts, que lui importerait alors son hôtel, puisque le rêve qu'il avait de l'entretenir, de l'orner, serait évanoui? Et l'harmonie? Qu'aurait-elle à voir en la matière si toutes ces flammes devaient être éteintes? Ce qu'il avait désiré, c'était une chose établie à jamais. Il pourrait en assurer la continuité sous un prétexte ou un autre, mais la raison d'être qu'elle avait pour lui aurait cessé d'exister. Pourtant, cette raison d'être, cette signification, n'aurait dû prendre fin qu'avec la vie de cette femme qui seule en comprenait le sens. En mars, une maladie contraignit Stransom à rester une quinzaine de jours au lit. Quand il fut un peu mieux, on lui apprit 2 choses qui s'étaient passées durant sa maladie. Une dame, dont les domestiques ignoraient le nom, elle ne leur avait pas laissé, était venue 3 fois demander de ses nouvelles. Puis, durant son sommeil, alors que son esprit divaguait manifestement, on l'avait entendu murmurer à plusieurs reprises « Rien qu'une de plus, rien qu'une ». Dès qu'il se sentit capable de sortir, avant même que son médecin ne l'y eût autorisé, il partit en voiture pour aller voir la dame qui était venue demander de ses nouvelles. Elle n'était pas chez elle. Cela fournit à Stransom prétexte à retourner à son hôtel, avant que les forces ne vinssent à lui manquer à nouveau. Il pénétra seul dans l'église. Il avait refusé, de cette manière aimable et catégorique qu'il savait prendre, la compagnie de son domestique ou d'une infirmière. Il savait parfaitement à quoi s'en tenir sur ce que ces braves gens pensaient de lui. Ils avaient découvert la liaison clandestine, l'aimant qui avait tenu Stransom durant tant d'années. et sans aucun doute donné une interprétation toute de leur crue aux paroles étranges qu'il lui avait rapportées. La dame inconnue, c'était là la liaison clandestine. Rien ne pouvait rendre plus clair ce fait que la hâte indécence avec laquelle leur maître avait voulu la rejoindre. Stransom s'effondra à genoux devant son autel, laissant tomber sa tête dans ses mains. Sa faiblesse, sa lassitude de vivre le terrassaient. Il lui sembla qu'il était venu là pour la reddition suprême. Il se demanda d'abord comment il pourrait s'en aller, puis, ne croyant plus qu'il en aurait le pouvoir, ce désir même l'abandonna. Il était venu, comme chaque fois, pour se perdre en une méditation sans notion du temps et du lieu. Le champ de lumière était toujours là. Certes, on pouvait errer dans ces méandres étincelants, seulement cette fois il sentait qu'il errait pour ne jamais revenir. Il s'était donné à ses morts. Et c'était très bon. Cette fois-ci, ses morts le garderaient. Il ne pouvait se relever. Tout ce qu'il put faire fut de lever la tête et de fixer les yeux sur ces lumières. Elles semblaient d'une splendeur étrange, inaccoutumée, mais celle qui toujours attirait particulièrement Stransom brillait d'un éclat sans précédent. Elle était la voix centrale du cœur, le cœur ardent de ce foyer de clarté. En ce jour, elle semblait étendre, déployer de grandes ailes de flamme. L'autel tout entier était embrasé, éblouissant, aveuglant. La source de cet immense rayonnement brûlait d'une flamme plus claire que l'ensemble des autres. Elle se fondait peu à peu en une forme vague. Cette forme, c'était la beauté humaine, la charité. C'était la lointaine figure de Marie Antrim. Elle souriait à Stransom dans la gloire des cieux. Elle lui tendait cette gloire pour le soulever, le transporter et l'élever jusqu'à elle. Il inclina la tête, s'abîmant dans la soumission, et une autre vague déferla sur lui et le submergea. Était-ce là la transition de la joie aiguë à la douleur ? Au milieu de cette extase de joie, il sentit son visage devenir brûlant, comme si cette révélation avait eu le caractère d'un reproche. Soudain, il opposa sa propre extase à la félicité qu'il avait refusée à un autre. Un souffle d'amour, un souffle d'immortalité, c'est tout ce qu'il implorait, cet autre. La vision de Marie Antrim ouvrit l'âme de Stransom et fit battre son cœur d'une fièvre de charité. Il accueillerait la venue d'Acton Hag. Après un moment désespéré, il jeta un regard autour de lui. Il lui semblait que la source de sa vie s'écoulait à grands flots. L'église était déserte, il était seul, mais il voulait faire quelque chose. Il avait un dernier ordre à donner, un dernier effort à faire. Il se leva, se tournant à demi pour s'appuyer au dossier d'un banc. Derrière lui, il y avait une forme prosternée, une forme déjà connue, une femme en grand deuil, abîmée dans la douleur ou dans la prière. Au jour ancien, il l'avait vue, la première fois qu'il était entré dans cette église. Il la regarda jusqu'à ce qu'elle sentît ce regard et il tressaillit. Elle leva la tête et son regard rencontra les yeux de Stransom. Le compagnon des heures de dévotion était revenu. Elle le regarda un moment, le visage perplexe et inquiet. Il vit qu'il lui avait fait peur, puis, se levant très vite, elle vint droit à lui les deux mains tendues. « Alors, vous avez pu venir ? Dieu vous a envoyé !» murmura-t-il, souriant de bonheur. « Vous êtes souffrant ?» Très souffrant, vous ne devriez pas être ici, répondit-elle avec une sollicitude inquiète. Je crois que Dieu m'a envoyé moi aussi. J'étais malade quand je suis arrivée ici, mais votre vue fait des miracles. Il tenait les mains de son ami qui le soutenait, le ranimait. J'ai quelque chose à vous dire.
Ne me le dites pas, supplia-t-elle tendrement.
Laissez-moi plutôt vous le dire. Cet après-midi, par un miracle, le plus exquis des miracles, le sentiment de distance qui nous séparait a disparu en moi.
J'étais sortie, j'errais aux alentours d'ici, réfléchissant, solitaire, quand tout à coup quelque chose en mon cœur changea. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est là ma confession. Revenir ici, revenir immédiatement, cette idée me donnait des ailes. Il me semblait apercevoir soudain quelque chose, il me semblait que tout devenait possible. Je pouvais venir, et pour cette intention même qui vous faisait y venir, vous, cela suffisait. Aussi me voici. Je ne viens pas pour moi, pour le seul mort que j'avais. C'est fini cela. Je suis ici pour eux, eux tous. Haletante, mais infiniment soulagée par cette confession à voix basse, elle contemplait la magnificence de leur autel, et ses yeux en reflétaient la splendeur. « Ils sont là pour vous, » dit Stransom. « Ne les sentez-vous pas plus présents ce soir qu'ils n'ont jamais été ? Ils parlent pour vous. Ne voyez-vous pas, dans ce cantique de lumière, ils chantent comme un cœur céleste. N'entendez-vous point ce qu'ils disent ? Ils offrent cela même que vous imploriez de moi. » Ne parlez pas de cela, ne pensez plus à cela, oubliez-le. » Sa voix suppliait tout bas. Tandis que l'inquiétude de ses yeux augmentait, elle dégagea l'une de ses mains et passa son bras autour de Stransom pour le soutenir, l'aider à s'affaisser sur un siège. Il se laissa aller, s'appuyant sur elle, il tomba sur le banc. Elle se tint à genoux à côté de lui, un bras de Stransom passé sur ses épaules. Il demeura ainsi un instant en contemplation devant son autel. Ils disent qu'il y a un vide béant qui détruit l'ensemble de la figure. Ils disent qu'elle n'est pas finie, pas complète, rien qu'une en plus, ajoute-t-il doucement. N'est-ce pas là ce que vous désiriez ? Oui, une de plus, une seule. Ah non, plus rien, gémit-elle sans voix. L'idée paraissait lui faire horreur. « Oui, une de plus, » répéta-t-il simplement. « Rien qu'une. » Et sa tête s'inclina sur l'épaule de son ami. Elle sentit que trop faible, il avait perdu connaissance. Seule, avec lui, dans la pénombre de l'église, elle se sentit glacée par l'immense terreur de ce qui pouvait encore arriver. Car le visage de Stransom avait la pâleur de la mort.